À quoi sert la recherche universitaire en histoire de l'art? Comment expliquer toutes ces heures passées à la bibliothèque, aux archives et dans les musées? Pourquoi étudions-nous des aspects si spécifiques comme le nombril de Saint-Sébastien? Mon nom est Pascal Tremblay. Voici Annexe. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue au premier épisode de la saison 3, intitulé « Art et immersion, quel rapport à l'œuvre et à l'exposition ». Aujourd'hui, nous abordons cette thématique sous une perspective transhistorique en mettant en dialogue une œuvre du 15e siècle avec des expositions actuelles. Pour en discuter, je suis en compagnie de deux étudiantes en histoire de l'art de l'UQAM, Laurence Garneau, qui est au doctorat sous la direction d'Itaï Sapir, et Marie-Jeanne Gagnon, qui est à la maîtrise sous la direction de Barbara Clausen. Avant de commencer, l'équipe tient à remercier le Centre Phi pour son accueil chaleureux dans ce superbe studio d'enregistrement. Alors, bonjour Laurence.
Bonjour Pascal.
Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour Pascal et Laurence.
Très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ce magnifique épisode, premier épisode. Et pour question de situer nos auditeurs et auditrices, si vous pouviez commencer par présenter un peu votre sujet de mémoire pour Marie-Jeanne et sujet de thèse pour Laurence, qui veut briser la glace.
J'y vais.
Alors, moi, je viens tout juste de terminer mon forum doctoral. Donc, j'attaque pleinement la rédaction de ma thèse. Donc, moi, je travaille sur un cycle astrologique qui se retrouve dans un palais médiéval, qui est le Palais de la Raison, situé à Padoue, en Italie. Donc, c'est un palais qui a été construit par la Commune, qui est un nouveau régime politique en place qui veut affirmer son pouvoir. Et donc, dans ce palais, dans la grande salle des tribunaux, on va commander à Giotto la réalisation d'un grand cycle de fresques astrologiques. Et malheureusement, l'œuvre va être détruite complètement par un incendie qui a lieu en 1420. Et désormais, la ville de Padoue est sous l'occupation de la République de Venise. Mais on va quand même demander à des artistes de reconstruire les fresques et de créer un cycle astrologique à nouveau. Mais là, il faut comprendre qu'on est dans un contexte politique complètement différent, ce qui m'intéresse précisément pour ma thèse. Donc, l'histoire de l'art va avoir surtout fait une grande recherche sur l'iconographie de l'œuvre pour essayer de comprendre qu'est-ce que Giotto avait fait dans un premier temps. Donc, moi, ma position dans ma thèse, c'est plutôt d'accepter que l'œuvre a été réalisée vraiment dans un but politique. Que l'œuvre qui est reconstruite, ce n'est pas qu'une pâle copie de ce que Giotto avait fait, mais d'accepter l'accumulation des sources différentes, iconographiques, qui sont utilisées pour créer un discours politique. Donc, la première partie de ma thèse porte précisément sur cette accumulation des temps dans l'œuvre, parce qu'elle va être restaurée à travers les époques jusqu'à aujourd'hui, comme c'est une œuvre qui date du 15e siècle, donc plusieurs couches de fresques. Et la deuxième partie de ma thèse va surtout porter sur les fonctions politiques de l'œuvre d'art. Comment l'œuvre présente des vices et des vertus pour dire aux citoyens padouans comment agir, comment se comporter dans la cité. Et je m'intéresse aussi à la matérialité de l'œuvre d'art parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, on croyait que les œuvres avaient un pouvoir d'agir sur les corps des citoyens. Donc, c'est en gros le gros projet de thèse sur lequel je travaille en ce moment.
Très intéressant. Puis, ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est qu'on va faire un bond du 15e siècle pour s'en aller vraiment dans une période très contemporaine avec le sujet de Marie-Jeanne, qui est...
Ouais, on revient à aujourd'hui.
Ouais, moi, dans le fond, je travaille sur les expos immersives qui utilisent des dispositifs numériques et interactifs. J'ai un peu comme objectif de décortiquer ce que j'identifie comme une tendance vers l'immersif, donc un appétit pour les expériences immersives de la part du public, mais aussi un désir de présenter des expériences immersives de la part des institutions aujourd'hui. Donc, je m'intéresse à des expos qui sont assez commerciales, ou, et là, je fais des guillemets avec mes mains, là, mais grand public, cette expression dont on pourrait parler longtemps, là, mais qui ont été présentées à Montréal dans les dernières années. Donc, je me penche entre autres sur la programmation du MAC, le Musée d'art contemporain, où les installations immersives et interactives sont assez largement surreprésentées. Là. Il y a beaucoup de formules black box. Hein. Je pense entre autres à Olafur Eliasson, Raphaël Lozano-Emer, Ragnar Kjartansson, Francis Alice, Leonard Cohen. Il y en a beaucoup. Mais parmi tout ça, donc, il y a Olafur Eliasson et Raphaël Lozano-Emer qui sont dans mes études de cas. Mais je m'intéresse aussi à la programmation de l'Arsenal, où on retrouve aussi Raphaël Lozano-Emer, mais beaucoup de réalité virtuelle, beaucoup d'art numérique et les fameuses déclinaisons Imagine Van Gogh, Imagine Monet et peut-être d'autres à venir, qui sait. Imagine Van Gogh fait partie de mes études de cas aussi. Donc, c'est sûrement les expos qui m'intéressent. C'est pas mal 2017 à 2020 sur lesquels je travaille. Mais cette tendance-là existe dans d'autres institutions à Montréal et à l'international. Hein. Dans les dernières années, c'est pas juste dans les galeries plus commerciales ou dans les musées d'art contemporain qu'on voit ça, mais aussi dans des milieux hors milieu des arts visuels, tu sais, comme le Palais des Congrès a créé l'espace Oasis Immersion pendant la pandémie, le New City Gas a créé présente en ce moment une expo immersive d'un artiste japonais, le Cirque Éloise a créé une expo immersive pendant la pandémie aussi, fait que c'est comme il y a un bassin large là, de choses à étudier. Puis, dans le fond, moi, je positionne ces expos-là au confluent de l'évolution des pratiques artistiques, hein, selon notamment l'installation, le minimalisme, tel que vu par Claire Bishop et Dorothea von Antelman, le tournant expérientiel de l'art, mais aussi les pratiques muséologiques, tournant communicationnel selon Daniel Jacobi, muséologie de point de vue et de passage selon François Mairesse. Là, je vous drop des noms, mais tu sais. En tout cas, on en reparlera si ça vaut la peine. Puis aussi, donc, mais en fait, qui sont portés par un idéal démocratique d'accessibilité. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est comment ces expos-là peuvent être un peu tributaires du contexte économique actuel. Donc, comment elles s'inscrivent dans la phase néolibérale du capitalisme qui s'organise autour de l'accumulation de profits et qui sont rendus possibles, en fait, par des mécanismes qui favorisent la concurrence et la compétition. Donc ça, je suis sûre qu'on pourra y revenir tout plein, là, mais dans le secteur culturel, dans le fond, le néolibéralisme se traduit par un processus de commercialisation ou de marketisation, c'est-à-dire que les institutions, vu qu'elles ont beaucoup plus de pression financière, doivent développer une conscience commerciale plus aiguë et utilisent de plus en plus des outils de marketing. Moi, je m'intéresse à, dans le fond, comment le facteur économique vient jouer dans la politique d'exposition. Puis, c'est pour ça que ma question de recherche est la suivante. comment envisager cette tendance vers l'immersif en regard du contexte socio-économique dans lequel elle s'inscrit?
Oui, bien, c'est intéressant la question parce que ça nous amène à rappeler aux auditeurs et auditrices aussi la thématique sur laquelle vous avez été réunis. Hein. Donc, on va surtout aborder la question de l'immersion par rapport à vos corpus respectifs. Donc, je serais curieuse, moi, de vous entendre par rapport à la notion de l'affect. Laurence?
Oui. L'œuvre que j'étudie pour ma thèse, c'est une œuvre qui est monumentale. C'est immense. Dans le fond, c'est dans une grande salle qui fait 80 mètres par 27 mètres. Puis c'est un immense cycle astrologique qui se déploie sur les quatre murs. Puis auparavant, dans le fond, le Palais de la Raison, c'est le premier palais qui a une haute voûte en carène. C'est comme si c'était la coque d'un navire renversée sur le palais. Et puis autrefois, la voûte était peinte en bleu avec des étoiles dorées. Donc, la monumentalité de cette œuvre-là va solliciter les affects des personnes qui entrent dans la salle nécessairement. Puis il y a comme une expérience assez particulière d'être dans un espace intérieur où on peut regarder au loin. Et ça vient vraiment solliciter les sens de différentes manières. Et puis c'est une œuvre qui se veut être une sorte de microcosme, une imitation du monde. Enfin, aujourd'hui, quand on déambule dans l'espace, on a comme une espèce de plaisir à regarder la bande dessinée hein, qui présente des planètes, des mois. Donc, on a un plaisir anodin à déambuler, à être en mouvance. Je pense que c'est vraiment la monumentalité qui sollicite le corps. Mais c'est intéressant, comme tu disais, de réfléchir aux temporalités, en fait. Il faut se rappeler qu'à l'époque, c'est une œuvre qui veut rappeler les valeurs de Padoue, en fait, les valeurs gouvernementales de Padoue. Donc, à Padoue, c'est la ville, c'est elle qui est responsable de la juridiction. Donc, c'est elle qui a le pouvoir de mettre à mort les gens ou de récompenser les personnes bienveillantes. Donc, l'image, probablement, qu'à cette époque, elle avait un pouvoir sur les gens complètement terrorisant, comme par exemple dans la section du mois de mars où on fait référence aux effets meurtriers de la planète, mais on voit des infanticides, on voit des personnes qui sont en combat. Donc, probablement que l'affect était aussi dans l'iconographie, hein, de se rappeler que c'est dans cette salle-ci que quelqu'un peut être condamné à mort. L'affect était produite pour des motifs politiques, vraiment pour véhiculer des valeurs morales. Donc, c'est comme si dans ma thèse, j'ai pas réfléchi à définir spécifiquement le mot des affects, mais j'aurais plutôt tendance à parler. Qu'est-ce qu'une œuvre peut susciter chez le spectateur ou la personne qui regarde? J'ai plutôt tendance à m'intéresser à la personne qui reçoit ou à la réception de cette œuvre-ci. C'est des sujets qui sont décédés. En fait. Je ne peux pas aller interroger des personnes du 15e siècle pour savoir, et vous, votre réception de cette image? Donc, c'est plutôt dans la... Ça demande beaucoup d'imagination, en fait, pour essayer de se repositionner dans cette Padoue oppressive, d'une certaine façon, puis de voir comment fonctionne l'image. Mais l'affect a son rôle, certainement.
Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, parce que, tu sais, moi, l'affect, c'est quelque chose d'assez central dans ma recherche, parce que c'est un peu comme ça que je fais le lien entre immersion et système capitaliste néolibéral, c'est comme par l'affect que j'essaie de tisser un pont. Puis il y a une des chercheurs dans les théories des affects qui m'intéresse, qui s'appelle Anna Gibbs. Puis elle parle de la transmission des affects de façon mimétique. Fait que c'est-à-dire que quand on est face à quelqu'un ou quelque chose qui émane un affect particulier, notre cerveau a tendance à vouloir reprendre le même chemin pour reproduire l'affect nous-mêmes. Fait qu'elle va dire, par exemple, c'est très difficile de pas répondre à un sourire spontané par un sourire spontané, mais c'est aussi vrai pour, par exemple, une image qui incite la crainte ou, tu sais, comme un avertissement, faites pas ça, un avertissement moral. Ou... J'ai l'impression que, tu sais, ça peut très bien se propager, se transmettre de l'image vers le public. Pis...
Surtout que l'œuvre que j'étudie, on commence à avoir une espèce d'intérêt pour les formes mimétiques. Hein. On va commencer déjà à faire des... Il y a des petits paysages dans l'œuvre, des actions de plus en plus précises pour qu'effectivement le spectateur soit capable de se projeter dans l'œuvre. Puis c'est clair que ça ajoute une intensité. Il va falloir que tu me donnes cette source.
C'est d'autant plus facile, c'est ça, quand tu reconnais l'image ou l'œuvre qui t'est présentée. Tu sais, moi, dans le cas de Imagine Van Gogh, par exemple, on le voit, là, la transmission d'affect quand les toiles les plus connues apparaissent dans cette exposition-là, qui est c'est des grandes projections des toiles de Van Gogh sur... des murs qui font plus de 9 mètres de haut, puis c'est accompagné de musique classique, puis c'est comme une séquence, un montage qui dure 30 minutes, fait que c'est assez court. Ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que quand c'est les toiles connues ou quand c'est des pièces de musique classique qui sont plus reconnaissables qui jouent, ça s'entend, il y a comme un petit murmure dans la salle, un petit peu comme d'émerveillement, puis là, t'as des petits sons de zip, de pochette, les gens sortent leur iPad, leur téléphone, puis là, on pose devant la nuit étoilée, ça tourbillonne, on est content. Mais ça se produit quand les gens reconnaissent l'étoile, ça se produit moins quand c'est des petits croquis.
Comme quand on entend toujours les mêmes chansons. Finalement, oui. On pense qu'on l'aime, mais ben oui. Non.
Claire de lune, quand Claire de lune arrive, tout le monde fait « Ah, ben oui! »
Ah, ben oui!
Mais ça m'amène à vous poser la question, est-ce que vous pensez que pour augmenter l'immersion, est-ce que ça implique qu'il faut avoir une possession des codes? Exemple, si on prend pour le palais, un visiteur ou une visiteuse de 2022 qui entre dans cet espace-là, qui ne possède pas nécessairement tous les codes pour comprendre le cycle qui se trouve au-dessus d'eux, est-ce que l'expérience va être différente? Est-ce que...
Définitivement, Laurence... l'œuvre que j'étudie, elle a eu plusieurs récits à travers le temps. Donc, notamment, il y a une partie de ma thèse qui porte sur le fait qu'il y a eu un ouragan au 18e siècle qui a encore une fois défait la voûte. Et on a décidé de reconstruire la voûte, mais pas de repeindre le ciel étoilé. Ce qui a probablement considérablement affecté l'effet de l'œuvre. Quand on n'a plus cette voûte bleue, on a un peu moins cet effet englobant ou le... la fonctionnalité de l'œuvre est un peu amoindrie. Est-ce que c'était volontaire parce qu'on est sous un autre régime politique? Peut-être. Mais ça l'a mené à une certaine incompréhension de l'œuvre d'art. Il y a beaucoup de textes de voyageurs du 19e siècle qui passent au palais. Et c'est assez drôle à lire parce qu'ils sont comme... Il y a juste comme une foule de figures qui défilent sous mes yeux. Je ne comprends rien. Il y a plusieurs témoignages des gens qui sont comme, c'est quoi cette affaire-là? On ne sait pas trop. Ça ne doit pas être vraiment important. On va passer à autre chose. Donc, il y a certainement une perte de sens. Puis aussi, les historiens de l'art contemporain qui veulent plutôt retrouver l'œuvre perdue de Giotto manquent l'œuvre qu'on a sous les yeux. Et il y a certainement eu une perte de compréhension de l'œuvre à travers le temps. Donc, c'est ce qu'on essaie de redépoussiérer et de remettre au goût du jour. Et ça me fait penser, l'autre fois, quand on prenait un café, Marie-Jeanne, on se posait la question sur, oui, mais les expos comme immersives de Van Gogh, comment elles vont traverser le temps? Mm-hmm. Comment va se faire la réception? Est-ce que comme ça va devenir des modèles désuets? Tu sais, est-ce que ça va devenir, ça va-tu mal vieillir? Ouais. Ça va-tu...
Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a déjà traversé une vingtaine d'années, ces expos-là, puis ça s'est déjà transformé un peu. Tu sais, la première itération de Imagine Van Gogh 2. L'exposition immersive qui était présentée à l'Arsenal, c'est une compagnie française qui l'a fait, puis la première itération, c'est en 2001. Depuis, tu sais, elle a eu connu plusieurs versions, puis je pense que celle qui a été présentée à Montréal date de comme 2017, là, la nouvelle version revue et améliorée. Puis je pense que avec les technologies numériques, si tu changes l'appareil que tu utilises, puis tu adaptes le fichier, tu sais, il y a moyen que ça traverse le temps. Est-ce que l'intérêt va demeurer? Ça, c'est une autre question aussi, tu sais.
Oui, quand tout le monde va avoir ses lunettes de réalité virtuelle à la maison.
Quand on va être dans le métavers complet. Oui, est-ce que l'immersion est un peu dépendante d'un lieu où on peut être... Justement, on aborde la question du métavers.
Moi, j'ai fait l'exercice là, de définir l'immersion pour ma recherche parce que c'est comme un peu le concept central. Puis... une des choses dans ma revue de littérature là, qui revenait souvent, c'est que pour créer une... Moi, je parle beaucoup d'expérience immersive parce qu'il y a quelque chose de très incarné, de très comme dans le ressenti. C'est une posture qu'on adopte. Mais pour ça, ce qui revient souvent dans les définitions, c'est que pour accéder à une expérience immersive, il faut qu'il y ait une certaine porte qui se ferme vers... qui empêche une mobilisation sensorielle qui viendrait d'un extérieur. Puis ça peut être un espace, tu sais, une pièce, puis on ferme une porte, mais ça peut être un écran qui mobilise notre attention. Ça peut être, tu sais, comme ça peut être beaucoup de choses. C'est pas nécessairement un lieu concret. Ça peut être vraiment de l'ordre du virtuel. C'est ça. Pour moi, c'est pas nécessairement ancré dans un lieu, sauf que ça aide. Je pense que dans le contexte de mes études de cas, ça aide vraiment beaucoup là, à créer l'expérience immersive que de définir un lieu. Et lorsqu'on passe cette porte-là, on vient d'entrer dans une expérience immersive qui nous englobe. Tous les murs, le plafond, le plancher nous permet de rester dans cet espace immersif. Dans le contexte des expos du MAC, moi qui m'intéresse, l'aspect interactif vient quand même créer l'immersion aussi. Il y a une des œuvres de Raphaël Lozano-Hemer où tu mets tes mains sur des capteurs, puis ça capte ton pouls. Puis il y a comme des centaines d'ampoules au-dessus de toi qui s'allument au rythme de ton pouls. Puis le fait que le corps soit impliqué, qu'il faut que tu fasses un geste pour faire advenir l'œuvre, puis là, l'œuvre est connectée avec le fonctionnement interne le plus intime là, de ton corps, ton battement de cœur, qui est comme transposé dans le grand hall du MAC. Ben, ça aussi, ça contribue à créer l'expérience immersive, alors qu'on n'est pas dans une pièce fermée où il fait noir avec des projections.
Oui, c'était l'œuvre Pulse Spiral,
qui
était dans la rotonde. Puis on avait aussi le son qui était amplifié. On avait le battement de cœur qui était... On avait l'impression de faire un voyage intérieur, en fait.
Ouais.
C'était assez fascinant, en effet, je me rappelle. Ça m'avait marqué aussi. Et pour toi, Laurence?
Mais moi, ça me fait penser, j'ai quand même... arrête-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que les œuvres que tu étudies vont miser beaucoup sur l'expérience immersive... individuel. Comme, tu sais, toi, tu parlais de refermer une porte, les organes internes qui sont maintenant visibles et sonores. Tandis que l'œuvre que j'étudie, on est plutôt dans une conception différente de l'individu. Il y a la naissance de cette espèce de prise de conscience qu'on existe en tant qu'humain singulier. Mais il y avait beaucoup une célébration de... chaque individu est important pour le bon fonctionnement de la commune, du bien commun. Donc, l'expérience immersive dans le palais de la raison, je voulais comme une espèce d'expérience assez collective. Et le palais est architecturé, comme je vous disais, ça se veut vraiment être une imitation du macrocosme. Donc, on entre dans un microcosme, mais c'est pas refermé complètement. Il y a pas de portes qui se ferment, même au contraire, on voulait laisser les portes ouvertes pour symboliser l'accès au gouvernement, au pouvoir. Et puis, il y a des petites fenêtres dans le palais qui laissent entrer la lumière. Et il y a toute une relation entre l'intérieur du palais, l'extérieur du palais, qui ajoute à cette expérience immersive de correspondance entre le cosmos extérieur et l'intérieur du palais. Donc là, je pense que l'aspect immersif de l'œuvre que j'étudie se fait plutôt en relation avec le...
continuité avec le reste de la vie, comme?
Exactement.
Oui.
Puis peut-être que ça s'arrime juste simplement avec la notion de l'individu selon les époques, hein, avec notre iPhone.
Mais tu le mentionnais un petit peu plus tôt, en fait, Marie-Jeanne, toute cette notion-là par rapport au capitalisme puis au néolibéralisme. Donc, on y est, en fait.
Tu sais, c'est sûr que ça me ramène à comme une question que je me pose souvent puis qui est peut-être un peu sous-jacente, loin là, dans le creux de ma recherche, mais comment est-ce que les œuvres d'art créent une forme de subjectivation? T'sais, quels individus ressortent de l'expérience d'une œuvre? Puis sinon, tu sais, ce qui est super commun aussi dans les trois études de cas qui m'intéressent, c'est à quel point ces expos-là sont documentés par les gens qui retransmettent les images sur les réseaux sociaux. Tu sais, si tu regardes le hashtag « Vos photos du Mac » sur Instagram, le trois quarts des œuvres qui sont représentées par les gens, des expos qui sont représentées par les gens, c'est Lozano-Hemer, Eliasson puis Cohen. Fait que c'est comme intéressant de voir à quel point ça sert finalement à comme un espace de mise en scène de soi, ces expositions-là. Tu sais, les photos de Imagine Van Gogh, si vous regardez là, les plateformes de médias sociaux, il y a des concours pour inviter les gens à se prendre en photo, ils peuvent gagner des choses. Il y a le nombre de photos où sur la plateforme, ils mettent genre des gens qui se demandent en mariage dans l'expo ou même des mariages dans l'expo. Tu sais, comme toutes ces campagnes de marketing, là, je reviens à quand je présentais mon sujet au début, mais ça contribue à créer des... Puis là, je ne veux pas tomber là, dans une grosse critique, tu sais, capitalisme égale aliénation, là, c'est pas ça, mais comme reste que des sujets capitalistes, tu sais, en soi, là, comme des personnes qui vivent leur vie absolument ancrée dans un système économique qui demande de se représenter en ligne parce que c'est synonyme de réussite individuelle. Puis, c'est toutes ces choses-là, c'est comme... Pour moi, ça ouvre là, tellement de belles réflexions qu'on parle de ça.
Et c'est comme si les réseaux sociaux sont devenus la place publique, d'une certaine façon.
Ouais.
Parce qu'au début, quand tu présentais ton projet, tu as dit le mot marketing, puis je me suis dit, ah, oh, la commune de Padoue aurait donc aimé ça, avoir les stratégies de marketing. Puis la commune de Padoue a été tellement bonne. Eux, ils ont fait toute une restructuration de la cité. Ils ont élargi les routes pour avoir un meilleur système de surveillance. Ils ont construit un palais au centre de la ville pour vraiment affirmer le pouvoir. Et puis les fresques qui sont peintes à l'intérieur, c'est vraiment une diffusion d'un message. Hein. En fait, les architectures étaient des moyens de communication parce qu'on n'a pas encore l'imprimerie, on n'a définitivement pas Internet, qui est comme la nouvelle modalité de diffusion. Puis je pense que c'est ce qui recoupe un peu nos recherches. C'est l'immersion devient finalement un espace pour diffuser des idées. Puis c'est sûr que les cas d'études que tu étudies, moi, je pense qu'on peut être critique quand même un peu des modalités d'exposition puis de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire dans notre société capitaliste de présenter ces peintures-là de façon numérique. Comme on en parlait, moi, des fois, j'ai l'impression que c'est le fameux texte de Daniel Arras sur le détail qui est poussé à un autre niveau. Hein, l'historien de l'art, il dit on peut se rapprocher des œuvres. Il travaille à partir de reproductions photographiques. On a une nouvelle lecture des peintures. Et leur traitement qu'on peut voir dans les reproductions photos, les corpus que tu étudies, ben surtout Van Gogh, on reprend ça puis on le remet à une autre échelle. Pour l'histoire de l'art, c'est complètement pertinent de se questionner sur...
Oui.
Qu'est-ce qui se passe?
Tu sais, tout à l'heure, Pascal, tu demandais, est-ce que ça prend des codes pour apprécier l'expérience de l'immersion? Tu sais, puis une des raisons, non, c'est pas qui se justifie, mais comme un des objectifs d'une expo comme Imagine Van Gogh, selon les producteurs de l'expo, c'est de plaire à la fois à un public averti et non initié, dans le sens où, selon les producteurs, le public non initié ne se retrouvera pas devant des œuvres statiques au musée qui pourraient l'emmerder un peu ou qui pourraient ne pas comprendre. Là, tout est lumineux, ça bouge, ça t'enveloppe de partout. Fait que tu n'as comme pas le choix d'être engagé dans ce que tu vis puis d'être impressionné. Fait que le public non initié qui cherche un peu à être impressionné puis à être enlevé par ce qu'il vit va y trouver son compte. Mais selon eux, selon les producteurs, c'est aussi le public averti qui enfin peut voir le détail, enfin peut voir la toile comme il ne l'a jamais vue, rentrer dans la touche.
C'est choquant.
Mais ce qui est drôle,
entrer
c'est
dans
que...
la touche pixelisée, si ben, c'est en ça, passant. T'sais... Moi, c'est là que j'ai vraiment un problème.
c'est là où... Il y a quelque chose de peut-être un peu aspirationnel là-dedans, là, parce que souvent, tu sais, quand on est entre collègues chercheurs, historiennes de l'art, souvent quand je dis que je travaille sur une expo comme Imagine Van Gogh, il y a comme une petite réaction d'indignation, tu sais, comme qu'est-ce que ça fait en histoire de l'art, cette expo-là? Mais pourtant, moi, je pense que ça a tout à fait... C'est super intéressant de l'étudier dans une perspective...
Mais il faut qu'on voit pourquoi ça fonctionne aussi
exact.
Bien.
Pour... Oui, puis c'est quoi le lien entre une telle exposition... assez ouvertement commercial, là, on se le cachera pas, là. Mais c'est quoi le lien entre ça puis ce qui est présenté au MAC? T'sais, c'est quoi les points de contact? Puis qu'est-ce qui est différent? Puis est-ce que le MAC ou les autres expositions immersives, est-ce qu'ils essaient de reprendre une formule comme ça, mais de l'adapter au contexte du milieu des arts visuels plus précisément? C'est toutes les questions que je me pose.
Oui, il faudrait peut-être même refaire toute une histoire de l'exposition pour comprendre c'est quoi une exposition si finalement, eux, ils récupèrent ce terme-là, comme tu l'expliquais bien.
Bien, ils le récupèrent puis ils le mettent dans le titre là, pour qu'on le sache que c'est une expo une aussi.
Bien, c'est ça, parce que quand tu me parlais aussi de ton sujet, moi, il y avait ça qui m'avait marqué, c'était à quel point ils réutilisaient tous les termes, les codes, le langage que les musées, les institutions utilisent pour faire la promotion de ce qu'ils présentent, de ce qu'ils programment. Et moi, je me questionnais beaucoup sur qu'est-ce qui fait qu'une personne est prête à payer 50 pour aller vivre une expérience sans qu'il y ait d'œuvres à l'intérieur, sans qu'il y ait vraiment de monnaie ou de Van Gogh présent, mais qui vont refuser de payer 15 $ pour aller se confronter à la matérialité. Mm-hmm. Bon, il n'y a pas toujours de matérialité, on s'entend. Parfois, ce sont des écrans, des projections et tout ça. Mais... au niveau de l'expérience, c'est là que moi, je me posais la question, C'est sûr qu'en tant que muséologue, je me questionne énormément sur le rôle de l'institution en ce moment. Je ne suis pas la seule, d'ailleurs. Mm-hmm. Mais c'est ça, je me demande à quel endroit on l'échappe, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on, parfois, on n'arrive pas à rejoindre, parce que c'est aussi notre vocation d'aller rejoindre le non-initié mm-hmm. et de plaire aussi au public plus aguerri. Donc, moi, c'est tout ça que ça soulève, en fait, ton choix de corpus.
Bien, puis c'est pour ça que je l'ai choisi aussi, tu sais. Puis, mais je pense que ça serait intéressant de savoir, puis là, tu sais, moi, je le sais pas, mais tu sais, clairement, tu sais, qu'est-ce qui se recoupe dans le public de l'Arsenal puis du MAC, mettons? Mm-hmm. Et tu sais, à quel point est-ce que les gens qui vont voir Imagine Van Gogh vont pas au MAC? Moi, je le sais pas, ça.
Moi, ce qui me reste en tête, c'est la phrase « faire événement
mm-hmm. ».
On veut faire événement. On veut créer l'événementiel. On veut créer le buzz autour de ce qui se passe. Puis je pense que c'est là que parfois, il y a comme une petite perte de connexion entre mandat, mission. Je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Que des questions.
Oui, parce que c'est ça. Les institutions, ils doivent s'adapter à la réalité, mais en même temps, il faut qu'un musée préserve sa rigueur.
Mm-hmm.
Puis on pourrait pas faire Imagine Van Gogh dans un musée d'art contemporain.
Mais déjà, les musées aujourd'hui, puis c'est ça que moi je trouve particulièrement intéressant dans le contexte de ma recherche, c'est que la compétition des musées aujourd'hui, c'est pas les autres musées, c'est toute l'offre culturelle qui est beaucoup plus large que juste les autres expos.
Mais en fait, on dit ça, c'est pas si pire, mais ça pourrait être catastrophique pour le milieu des arts.
Mm.
Si nos institutions qui doivent collectionner, produire du savoir, diluent leur programmation dans l'expérience, pour moi, c'est grave.
Oui. Ben, je t'avoue que je suis d'accord avec toi. Je pense que j'appréhende tout cet enjeu-là comme un peu sous... comme si c'était une menace. T'sais, je le vois comme quelque chose de menaçant puis d'inquiétant, mais je fais l'exercice de essayer de m'écarter mm-hmm. de ça pour voir qu'est-ce qu'il en est. T'sais, j'essaie de comme sortir de la critique ou le jugement qui viendrait comme instantanément quand je regarde des expos comme ça pour voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'il en est. Je sais pas, tu comprends-tu la perspective que j'essaie d'adopter?
Oui, oui, c'est vraiment délicat, le corpus que tu étudies. Puis c'est tout à ton honneur d'être capable d'aller vivre l'expérience. Comme tu nous disais, toi, t'es rentrée là, la musique, t'as eu des frissons.
Ce qui est incroyable avec une expo comme ça, c'est que même si tu y vas complètement à reculons, complètement critique, fâchée, de mon expérience, puis de l'expérience des personnes autour de moi, tu vas avoir des frissons quand même. C'est là où la question des affects est super intéressante, parce que c'est comme une espèce de force viscérale là, qui te traverse sans que tu le veuilles, tu sais, de façon involontaire très souvent. Tu sais. Puis je suis retournée voir Imagine Monet là, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, ah, je vais comme me rafraîchir. Quand le montage des projections est comme fait de façon plus dramatique, puis là, il y a comme une toile qui apparaît, les lumières, tu sais, se baissent. Il y a comme, par exemple, une gamme mineure là, qui évoque quelque chose de plus triste. Puis là, il y a comme une toile touchante qui apparaît. Même si t'es pas là pour être émerveillé, la chair de poule, elle apparaît.
Mm-hmm. Mais je trouve ça intéressant que tu parles de ton souhait d'atteindre une certaine forme d'analyse objective pour parler de quelque chose qui, au final, est tellement subjectif quand on parle d'affect et de mm-hmm. réaction à quelque chose comme ça. Mais moi, ça me fait penser beaucoup à cette... en fait, quand je réfléchissais à vos sujets puis à la conversation d'aujourd'hui et même à réfléchir un peu à mes expériences immersives que j'ai vécu et tout ça, souvent, ce qui me vient en tête par rapport aux études en histoire de l'art, je trouve que c'est quelque chose de précieux, cette capacité-là à s'émouvoir, mm-hmm. en fait. Et cette capacité-là à être touchée par l'art, par une expérience qu'on vit, soit seule ou encore avec le public dans une institution ou autre. Mais cette sensibilité-là qu'on peut avoir à recevoir une œuvre et par rapport à l'exposition Imagine Monet ou Imagine Van Gogh ou les autres, oui, c'est ça qui sont présentés dans les institutions. C'est aussi, ce que je trouve précieux, c'est cette éducation du regard qu'on fait à travers notre parcours, qui fait qu'on est capable justement de se questionner, de se positionner sur des œuvres comme ça qui ont été faites au 15e siècle versus la conversation qu'on peut avoir avec des œuvres contemporaines, donc de traverser les histoires, de traverser les disciplines aussi à travers nos réflexions, les thématiques qu'on aborde aussi, comme on vient de le faire aujourd'hui autour de vos sujets. Moi, c'est ce qui m'amènerait à conclure déjà cet échange. Déjà, je ne sais pas si vous auriez un mot de la fin, une impulsion, une injonction.
Ah, c'est le moment.
Oui, Marie-Jeanne.
Moi, on m'a accusée de vouloir être objective, puis je vais revenir là-dessus. Non, mais dans le sens où ce que je voulais dire, c'est pas... Tu sais, je suis bien consciente là, que je peux pas être objective, surtout quand je parle d'affect, puis que je me base sur mon expérience. C'est vraiment pas ça l'idée. C'était, ce que je voulais dire, c'était plus de me mettre dans une posture de disponibilité et de non-jugement de ces expos-là qui s'adressent à un plus grand public moins initié. C'était plus ça que je voulais dire.
Donc, une position sans préjugés. Je le comprends bien.
Oui, c'était ça.
Laurence.
Moi, j'avais encore des réflexions. Je vous écoutais parler. Puis, enfin, je me suis demandé si on ne devait pas aussi, dans les institutions muséales, réfléchir très simplement au mode de présentation des œuvres. Très basique, là, le tableau accroché au mur, parce que là, je fais juste penser à mon expérience au Musée des Offices, où on est tellement d'humains dans une même petite salle à faire du coude pour aller voir le Botticelli. Est-ce que ça peut pas aussi nuire à notre expérience ou à notre disponibilité pour avoir une réception plus positive des œuvres? Puis est-ce que finalement, des expos comme Imagine Van Gogh, il n'y a pas aussi cette réflexion sur l'expérience agréable du public? Enfin, juste à un niveau organisationnel, commissarial, est-ce qu'on va peut-être apprendre quelque chose de ces expériences-là? Pas juste sur les dispositifs musicaux de présentation, mais organisationnels. Ouais. C'était ça, ma petite réflexion de fin.
Oui, oui, ben je suis tout à fait d'accord pour utiliser un terme, justement, qui est très... dans le système capitaliste, mais l'expérience client, hein? Ça, c'est peut-être un peu galvaudé, mais je veux dire, il y a du bon là-dedans.
Mais finalement,
aussi,
on en a peut-être besoin pour vivre une expérience positive des œuvres.
Je pense qu'il y a... Il y a du bon dans le fait de placer le public, les visiteurs, visiteuses, au cœur de l'expo, tu sais. Puis c'est pas pour rien qu'au dans la deuxième moitié du 20e siècle, tu sais, les pratiques artistiques vont dans ce sens-là avec l'installation. La muséo s'ouvre à ça, tu sais, en même temps. Puis c'est pas pour rien qu'on est là aujourd'hui. Je pense que l'idée, c'est pas de trouver la formule magique qu'on pourrait appliquer partout. Je pense que, comme toujours, la diversité des tactiques est gagnante. Mm-hmm. Mais oui, clairement, je pense qu'on se pose des bonnes questions. Là.
Oui, tout à fait. Et j'espère que ça éveillera aussi des questionnements auprès de nos auditeurs et auditrices. Je doute pas que ça s'opère en ce moment. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre temps, votre générosité aussi, puis pour les excellents points qui ont été soulevés à travers cette conversation. Et nous, on dit au revoir aux auditeurs et auditrices, mais je pense qu'on va poursuivre ça ensemble.
Définitivement. Merci à toi.
Plaisir.